Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, je pense, nous concerne tous de très très près. Comment nos fils d'actualité peuvent devenir de véritables chambres d'écho? Pour décortiquer ça, on s'appuie sur une analyse passionnante de Digital Wellness et tout part d'un constat simple, d'une tendance humaine. On aime ce qui nous ressemble, ce qui confirme ce qu'on pense. C'est confortable.
C'est tout à fait ça. C'est le point de départ, ce besoin de validation. Mais là où ça bascule, en fait, c'est que les algorithmes, eux, ils ont pris cette petite préférence humaine et ils en ont fait une architecture. Ce qui n'était qu'un penchant est devenu une bulle de filtre, quasi invisible, qui finit par nous enfermer.
Et c'est ça qui est vertigineux. Ce n'est plus juste nous qui choisissons nos amis ou nos médias, la machine elle-même commence à choisir pour nous. C'est un peu ça, net. Comment est-ce que cette spirale se met en route concrètement?
Exactement. Le mécanisme il est redoutablement efficace parce qu'il se base sur l'engagement. Les plateformes, elles analysent tout. Nos clics, nos partages, le temps qu'on passe sur une vidéo, tout. Leur seul but, c'est de nous garder captifs. Et pour ça, elles nous servent un régime constant de contenu qui provoque une réaction émotionnelle. Le plus souvent, l'approbation. Du coup, petit à petit, sans même qu'on s'en aperçoive.
Les autres points de vue disparaissent.
Voilà, ils sont écartés. On a l'impression d'explorer un monde infini d'infos, alors qu'en fait, on tourne en rond dans un miroir algorithmique.
Tourner en rond dans un miroir. L'image est puissante. Et j'imagine que se regarder soi-même en boucle comme ça finit par avoir des conséquences bien réelles sur notre façon de penser, non?
C'est inéditable. On passe d'un fil d'actualité qui est juste personnalisé à une véritable distorsion de la réalité. C'est ce que l'analyse appelle l'illusion du consensus.
L'illusion du consensus.
Oui, cette sensation un peu étrange, mais confortable, que finalement, tout le monde est d'accord avec nous. Le problème, évidemment, c'est que c'est froid.
C'est fou, parce que ça veut dire que notre propre fil d'actualité nous ment en quelque sorte. Il nous fait croire que notre opinion est majoritaire, même si dans la réalité, elle est complètement minoritaire. On a tous en tête cet exemple de quelqu'un qui est persuadé de détenir une vérité que les autres, entre guillemets, ne voient pas.
Précisément. Et l'impact psychologique, il est profond. Notre esprit critique s'émousse, forcément. Il n'est plus jamais mis au défi. La nuance devient presque
Inconfortable.
agressive. Ça crée ce que l'article appelle un confinement intellectuel. Et ça renforce la polarisation. Quand on est convaincu que notre vision du monde est la seule juste, eh ben celui qui pense différemment n'est plus un interlocuteur, c'est un adversaire. Le dialogue est remplacé par l'affrontement.
Mais il n'y a pas que l'algorithme qui nous piège, si je comprends bien. Il y a aussi un aspect presque
Addictif. Qu'est-ce qui nous pousse à rester volontairement dans cette bulle? C'est le cœur du problème. Cette bulle, elle comble un besoin fondamental de sécurité psychologique, de validation sociale. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire qui va dans notre sens, c'est une micro-récompense pour notre cerveau. C'est un petit shoot de dopamine qui nous dit « Ok, tu as raison, tu appartiens au bon groupe. » Et cette boucle de récompense renforce le comportement. Plus on est validé, plus on reste, et plus on reste, plus le miroir se referme.
D'accord. Donc, si on se bat à la fois contre un algorithme et contre notre propre chimie cérébrale, quelles sont les issues de secours? Comment on fait concrètement pour percer cette bulle?
Les médecins analystes proposent des stratégies. Elles demandent un effort conscient, évidemment. La première, c'est de diversifier activement ses sources, d'aller chercher l'info là où on ne va jamais. La deuxième, c'est de pratiquer ce qu'ils appellent la curiosité critique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, avant de réagir, de partager, se poser la question de l'intention derrière un contenu. Et enfin, le plus important peut-être, privilégier les vrais échanges, hors ligne, là où on peut voir les nuances sur le visage de l'autre.
Oui, mais attendez. Diversifier ses sources, c'est le conseil qu'on entend partout, et c'est incroyablement difficile. Qui a vraiment l'énergie, après une longue journée, de se plonger dans des articles qui vont à l'encontre de tout ce qu'on croit? Ce n'est pas un peu idéaliste?
C'est une excellente objection. C'est vrai. Et la clé, ce n'est peut-être pas de tout lire, c'est de changer d'état d'esprit. D'accueillir le désaccord non pas comme une attaque personnelle, mais comme une occasion de muscler sa pensée. Même lire un seul article contradictoire par semaine, c'est déjà une fissure dans le mur de la chambre d'écho. c'est réapprendre à tolérer l'inconfort intellectuel.
Donc, si on résume, au fond, le vrai enjeu n'est pas tant d'avoir raison que de préserver notre capacité à écouter, à rester ouverte. La liberté intellectuelle, finalement, ce serait ça, la capacité de tendre l'oreille à ce qui nous dérange.
Exactement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question que l'analyse soulève et qui est, je trouve, assez puissante. Dans un environnement numérique qui est entièrement conçu pour la réaction instantanée, pour l'affirmation de soi, est-ce que l'écoute patiente, l'écoute sans jugement, n'est pas finalement devenue un véritable acte de résistance ?